Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Ce Clap Cinéma s'intitule « Le cinéma, une histoire de famille » et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Parce que je suis avec Alice Vell. Bonjour Alice.
Bonjour.
Que je ne connaissais pas, mais je connaissais très bien, enfin très bien, assez bien sa grand-mère, Frédérique Hébrard. Je ne connaissais pas personnellement son grand-père, Louis Vell, mais j'avais rencontré donc Frédérique Hébrard et j'étais très contente quand Alice m'a appelée. Pour dire, j'ai fait un documentaire sur mes grands-parents et j'aimerais vraiment beaucoup vous en parler. Et voilà, donc Alice, vous êtes réalisatrice.
C'est ça.
C'est votre premier long-métrage.
Tout à fait, oui, oui, j'ai commencé, enfin ça fait un petit moment du coup, j'ai commencé mes premières réalisations, mais c'était des sujets, on va dire, de 5 minutes. À l'époque, je travaillais pour des émissions de témoignages, j'ai commencé en 2014, ça remonte, et voilà, c'était pour des émissions comme Toute une histoire, ça commence aujourd'hui, mais c'était voilà, des émissions qui étaient principalement en plateau et on faisait un petit sujet sur un invité pour qu'il y ait une aération dans l'émission où à un moment l'animatrice disait « Hier, notre journaliste est venu vous rencontrer », etc. Et on avait ce petit sujet. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai eu l'idée de ce documentaire, il y a eu une part d'hésitation puisque j'avais jamais fait plus de 5 minutes, donc j'avais les bases, j'avais la technique, mais je savais pas si j'allais pouvoir faire un long métrage. Et puis c'était pas les mêmes codes, c'est-à-dire que quand je travaillais du coup pour ces émissions-là, on avait une charte, donc c'était facile. On avait une rédactrice en chef image qui nous guidait. Donc
il y avait moins d'émotions, c'était moins affectif, parce que là vous aviez un sujet en or, hein, vos grands-parents qui sont décédés tous les deux en 2023. Après 72 ans de mariage, hein, c'est pour ça que vous avez intitulé votre film.
L'amour dure 72 ans, c'est ça.
Et presque 73.
Mais... Presque 73. Alors, ils les ont fêtés. C'est-à-dire que moi, je l'ai tourné, ce documentaire, en effet, pendant le confinement. Et du coup, je leur ai montré à l'occasion de leurs 72 ans. Donc, ils étaient venus chez nous. On avait fait une grande projection avec toute la famille. Et voilà, ils sont partis après leurs 73 ans. Donc,
Donc, ils sont décédés en février et en septembre 2023, comme s'ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. Ils étaient nés en 1926-1927. Ils s'étaient mariés en 1949. Ils ont eu 3 enfants. Vous êtes la fille du petit dernier.
Oui, de François Vell.
De François Vell. Et vous continuez la tradition, mais on verra peut-être en conclusion que c'est bien une histoire de famille. Même si pour moi, Louis Vell, c'était plus un acteur de théâtre. D'ailleurs, dans votre film, vous commencez
par les planches.
par le théâtre.
C'est ça.
Et ce qui m'a beaucoup frappée dans au premier visionnage, vous savez que le premier visionnage, c'est souvent le plus important. Parce qu'on est plus dans le ressenti que dans le contenu, je dirais. C'est l'importance de la musique. Et donc, on ponctuera l'émission par plusieurs musiques. Vous nous les expliquerez. Et dites-moi déjà comment vous avez travaillé. Parce que 72 ans en une heure, il fallait bien que vous choisissiez des axes.
Oui, tout à fait. Ben, en effet, j'avais trois... On peut dire chapitre. Donc, il y a un premier chapitre où on parle vraiment de leur rencontre et de leurs débuts. C'est pour ça qu'on a tourné au Théâtre Montansier à Versailles, où mon grand-père a joué d'ailleurs, en effet, enfin voilà, quelques années auparavant.
Il faut aller sur Internet et voir tout ce qu'ils ont fait.
et donc, il y a cette première partie. Il y a une deuxième partie où on est chez eux, dans cette maison qu'on a toujours dans la famille, Coin Perdu, qui est une maison, du coup, qui... Ils ont emménagé là-bas dans les années 60. Donc, par exemple, mon papa, comme vous dites, qui était le petit dernier, n'a connu que cette maison. on va fêter Noël là-bas cette année, en plus. Donc, voilà, c'est vraiment incroyable. Et ça, c'était la deuxième partie où on parle vraiment donc de, ben, en fait, de tout ce qu'ils ont fait quand ils habitaient là-bas, ensemble, comme travail commun, notamment La Demoiselle d'Avignon, ouais. qu'ils ont écrite là-bas, à Bure, à Coin Perdu, dans les Yvelines. Et la dernière partie est dans les Cévennes, avec voilà, tout cet héritage d'André Chanson dans cette maison des Bressous, qui est dans la famille depuis 3 générations. Et voilà, on termine le documentaire sur le tombeau de mes arrière-grands-parents.
Oui, alors c'est vrai qu'on rappelle que Frédérique Hébrard est la fille d'André Chanson et que 2026 sera une grande année à André Chanson, surtout sur Nîmes. Frédérique Hébrard est née à Nîmes.
Hein, donc... Oui, tout à fait.
Et quand je l'avais rencontrée, elle avait beaucoup parlé, justement. Et moi, je conseille à tout lecteur de lire, s'il n'a pas lu déjà, La Chambre de Goethe, où on voit vraiment la vie de Frédérique Hébrard et on sent très bien sa personnalité, cette vivacité. Oui. C'était compliqué pour vous d'interviewer vos grands-parents ?
Il y a eu beaucoup de préparation en amont, parce que en fait, ils nous avaient souvent raconté, même quand on était gamin, des petites anecdotes, des petites bribes en fait de leur histoire. Mais voilà, on n'avait pas de vue d'ensemble. Donc là, on a fait une grosse préparation en amont, justement, voilà, pour savoir comment j'allais construire le documentaire, etc. Donc ça, c'était passionnant parce que du coup, j'ai pu leur poser plein de questions et c'était pas la petite anecdote glissée comme ça. C'était vraiment, on est rentré. Voilà, j'ai eu toutes les dates, tous les détails. J'ai pu poser toutes les questions que je voulais. Et ensuite, j'ai pu construire mon documentaire à partir de ça. Et en vrai, on était très à l'aise. Ça a été une super collaboration. Et puis voilà, juste... c'était super chouette, quoi, parce qu'en fait, c'est leur... c'était pas une fiction, mais c'est leur métier. Ils ont l'habitude de tourner. Donc, même si c'était très fatigant à leur âge, ouais. Ils adoraient ça. On pouvait tourner 3-4 heures. Je m'excusais de les solliciter autant. Ils me disaient, bah non, on adore ça. Donc...
Donc, ils étaient très fiers, je pense, justement, que ça se perpétue parce qu'il y a une très belle transmission. Et comme premier extrait musical, vous aviez choisi, en fait, quand ils se sont dit oui, en 1949, quelle musique vous avez choisi ?
Oui, c'était une chanson qui s'appelle I Do. Donc, c'est un duo donc, avec notamment Dinah Washington. Et du coup, je trouvais que cette chanson correspondait tout à fait à ce que j'essaie de raconter à ce moment-là, puisque c'est en fait un couple qui se jure de passer l'éternité ensemble. Et donc c'est un extrait musical. Donc j'ai vraiment monté du coup c'est du coup la dernière séquence de la première partie. J'ai monté vraiment image par image en utilisant cette musique. Et du coup la musique parle pour eux et ça correspond tout à fait à ce qu'ils sont en train de se dire. Même si on n'entend pas, les paroles veulent tout dire.
Do I love you with all my heart and soul? I do, I do.
Do I promise I'm yours to have and hold? I do, yes, I do.
Share the future, come what may.
Yes, that's how it will be. to me, I do, yes, I do.
Do I want you to rule my destiny? I do, I do.
Do you now make a sacred
On sent, Alice, quand vous les interviewez, à la fois beaucoup d'amour, bien évidemment, mais aussi presque de l'émotion, mais beaucoup de respect. Hein. Je ne sais pas si je me trompe, mais vous les admiriez. Est-ce que vous avez ressenti chez eux cet amour absolument démesuré, je ne sais pas. Mais moi, quand je l'avais rencontré, Frédéric Hébrard, je sentais cet amour, cette générosité, et ça vous impressionnait? Quel souvenir vous avez de votre grand-mère? Pas en tant que réalisatrice, mais en tant que petite fille ou...
En plus, ce qui était très beau, c'est que toute la vie de ma grand-mère, nous on l'appelait Babouchka, Frédéric Hébrard, tournait autour de l'amour, c'est-à-dire donc évidemment l'amour qu'elle portait sur lui, mais la quasi-totalité de ses romans parle d'amour, les téléfilms qu'elle a écrit et qu'ils ont écrit, parce qu'ils écrivaient aussi à quatre mains, mon grand-père en dialoguiste et ma grand-mère en scénariste, tournait aussi autour de l'amour. C'est vraiment le sujet de sa vie. Donc, c'est magnifique parce que ce documentaire, du coup, je suis très contente qu'il soit sur YouTube puisque c'est une plateforme où les gens peuvent commenter. Et ce qui ressort dans tous les messages que je lis, c'est à quel point les gens sont touchés par cet amour, à quel point ça fait du bien. Donc, je suis tellement heureuse parce que, du coup, j'ai l'impression de les aider à continuer à répandre ce message de façon posthume. Et ça a été vraiment le combat de toute sa vie, même d'un point de vue œcuménique, ce que ma grand-mère a toujours essayé de faire, donc c'est la protestante et le catholique, c'est de parler d'amour, de dire qu'en fait, quelque part,
la tolérance,
il n'y a qu'une seule religion, c'est celle de l'amour, en fait. Donc, c'est peut-être là où c'était impressionnant, c'est en fait ce qui me vient à l'esprit, c'est que c'était des monstres, des géants d'amour. Voilà, des monstres d'amour. Géants d'amour, c'était quelque chose que m'avait dit Hubert, qui était du coup qui est le parrain de mon frère et qui a vécu avec eux quelques années et qui me disait voilà, c'est vraiment mes héros, ils m'ont tout appris de la vie. Et il y avait vraiment cette importance de l'amour, et c'est ça, c'est des géants de l'amour, je trouve que voilà.
Des géants de l'amour qui n'ont pas été détournés justement de cette simplicité par le succès, parce que il faut parler tout de même de leur carrière. Hein, sont tous les deux des grands personnages, des grands artistes. Louis Veil était magnifique. On se souvient de lui dans La Demoiselle d'Avignon et dans plein d'autres films. Hein. On ne va pas tous les énumérer. Et puis, ce succès, on parle de La Demoiselle d'Avignon. On ne peut pas. C'est vrai que la plupart des personnes, quand on parle de Louis Veil, pensent à La Demoiselle d'Avignon. Ça a bercé votre enfance?
Oui, particulièrement du coup la musique de La Demoiselle d'Avignon, la chanson. Donc, on chantait en français et en curlandais, puisque c'est la langue qu'ils ont inventée, mais du coup, qui était donc la langue de Marthe Keller, qui joue la princesse de Curland. Et en effet, bien sûr, ça nous berçait toute mon enfance, La Demoiselle d'Avignon. Et par rapport à ce que vous dites, en effet, ça a été leur plus gros succès, celui qui leur a permis ensuite de créer une boîte de production, qui leur a permis de financer ensuite les séries à venir, donc Le Château des Oliviers, Le Grand Battre, Le Mari de l'Ambassadeur. c'est un succès. Mon grand-père avait plus de 40 ans, donc on va dire qu'il est venu un peu sur le tard. Et bah, c'est vrai qu'ils étaient, ils se battaient un petit peu. Ils étaient seuls. Ils ont dû se battre contre parfois les critiques qui trouvaient que, justement, peut-être leur propension à parler trop d'amour oui. ne correspondait pas. Post-mai 68, on leur disait qui va s'intéresser à l'histoire d'une princesse qui part avec son amant à Honfleur et ils prennent deux chambres après mai 68. Et pourtant, les gens avaient besoin d'amour. Mm. Et justement, ça a été un raz-de-marée. Et oui, c'est vrai que c'est rare un couple... déjà un couple qui dure autant, c'est magnifique, mais qui plus est dans, on va dire, le show business qui n'est pas forcément un milieu évident. Et
ils ont gardé leur intégrité.
Ils ont gardé leur intégrité.
Leur honnêteté. Mais c'est peut-être, vous avez dit le protestant et la catholique, vous avez des Bures et vous allez dire les Cévennes, ils avaient peut-être cet équilibre justement entre...
oui, c'est vrai.
La ville, la campagne, et c'était oui. assez étonnant. Je vous avais posé la question, est-ce qu'enfant vous aimiez aller au Bressous ? C'est un coin perdu. Et vous m'avez dit oui, oui mais pas que vous, vos parents, vos cousins, vos... c'était un lieu un peu magique. Où...
Oui, et c'est vrai que c'était très important pour nos parents et nos grands-parents de nous transmettre en fait cet amour de la terre, de la montagne. J'ai déjeuné ce midi avec Micheline Cellier, qui est la biographe d'André Chanson, et elle m'expliquait que André Chanson, donc, qui est né ici à Nîmes, n'a vécu en fait, je ne le savais pas, que 2 ans à Nîmes, puisque du coup, son père qui avait une fabrique de pâtes, qui était entrepreneur, malheureusement cette fabrique a brûlé et ils ont réaménagé dans les Cévennes. Et André Chanson disait, mais heureusement qu'on a dû retourner dans les Cévennes, sinon je ne serais pas l'homme que je suis, c'est-à-dire que je ne parlerais pas de la défense de la nature, de la terre, des racines, parce que je serais en effet comme mes amis ni moi que j'ai vu grandir, étant voilà, des entrepreneurs, des gens plus urbains. Et donc du coup, André Chanson, qui a pu renouer avec ses racines et avec la terre en revenant au pays, du coup, voilà... passer toute sa carrière, consacrer toute son œuvre à la défense de son pays. Comme
et
il
donc,
le
c'est
dit.
Vrai qu'on a appelé cette émission « Le cinéma, une histoire de famille », mais pas que le cinéma. Il y a la littérature, il y a l'art, il y a la culture. C'est vrai qu'au Bressous, j'avais été fascinée par cette bibliothèque du sol au plafond, sur tous les murs. Et vous avez des souvenirs d'une grande richesse. Vous avez eu l'occasion de voir vos grands-parents âgés, puisqu'ils ont, ils ont vécu assez âgés. Et on va écouter, puisque je le répète, la musique a beaucoup d'importance dans votre documentaire. La Noiselle d'Avignon, je vous autorise à la chantonner aussi.
De Cuba, là-bas dans le sud, dans le lilas et le thym. Je connais un jardin, c'est le jardin de François. Et ensuite, il y a la version en curlandais.
Alors, sur Radio Alliance Plus, vous avez eu ce grand inédit de Alice Veil chantant La Demoiselle d'Avignon pour parler bien au-delà de La Noiselle d'Avignon, de ses grands-parents, donc Louis Veil et Frédéric Hébras, dans ce documentaire, l'amour dure 72 ans. Et il y a vraiment un amour. Hein. Bon, c'est vrai que ça fait peut-être un peu, on va dire, un peu cucu, comme on disait. Mais c'est tellement extraordinaire. Est-ce que vous avez réussi à tout dire en une heure ? Est-ce que vous auriez voulu dire, enfin, ou leur faire dire beaucoup plus de choses ?
C'est une bonne question. Alors, en réalité, vu que le plus important pour moi, c'était de les montrer en fait tels qu'ils étaient, j'ai la sensation, en tout cas, d'avoir dit les grandes lignes, l'essentiel. Et même si je n'avais pas tout dit, c'est pas grave, parce que je voulais surtout qu'on les voit en fait au quotidien. Et quand je lis les commentaires, quand je vois, quand je regarde le documentaire aujourd'hui, je me dis, oui, j'ai, en tout cas, à ce niveau-là, j'ai réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire, en fait, saisir leur essence, quoi. Et en effet, c'est vrai que les critiques leur ont souvent fait ce reproche. Ils ont toujours eu le public de leur côté, pas toujours les critiques. On leur a souvent fait ce reproche, en effet, de parler trop d'amour ou d'être nunuche ou pas assez dans l'air du temps, etc. Ils ont toujours eu ce même message d'amour jusqu'au bout. Et du coup, bah, j'étais dans la continuité avec ce documentaire. Et on voit encore aujourd'hui que les gens en ont besoin, en fait, de ça. Et que c'est dommage, en tout cas, d'essayer de, voilà, de nier ça ou de se tourner vers quelque chose d'autre. Parce qu'en effet, on a tous besoin d'amour.
Et ça se ressent dans ce film où on voit votre frère interviewer ses grands-parents, mais on voit aussi dans les Cévennes la grande tablée.
Oui.
Moi-même, j'avais été invitée à une de ces grandes tablées, à tous ces enfants qui reviennent. Moi, je me suis dit, des États-Unis, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire au Bressou? Et il y a cet amour familial, il y a vraiment un ancrage, hein, c'est un clan, mais au bon sens du terme, vous le ressentez comme tel. Frédéric Hébrard et Louis Vell ont eu 3 enfants. Catherine,
Nicolas et François.
Et François. Voilà. Et puis ça se perpétue avec vous et puis les cousins, cousines, etc. Et on a l'impression que c'est vraiment un clan.
Hein. Oui.
Et il vous manque beaucoup, Louis et Frédéric. Ils sont décédés en 2023.
Ils manquent beaucoup, mais là c'est très beau aussi, puisque du coup, en ce moment, je me replonge un peu du coup. Avec justement la sortie de ce documentaire récemment. Bon, il est sorti pour ce qui aurait été leur 76 ans en fait, de mariage, là, du coup, au mois de septembre. Du coup, oui, pour moi, ils sont encore là. Et je pense que c'est pour ça que ma grand-mère elle-même, du coup, je pense à votre article « Passagère d'une mémoire », c'était le titre à l'époque. Je pense que c'est pour ça que ma grand-mère... avait autant à cœur de faire vivre la mémoire d'André Chanson, c'est que ça permet en fait de garder nos ancêtres encore avec nous. Donc moi, j'espère le plus longtemps possible. Il y a eu ce documentaire, il y a le colloque dont vous parliez, auquel va participer ma tante, Catherine. Ma tante, là aussi, Catherine, vient d'écrire un manuscrit qui s'appelle « Enfant de la balle », qui est à la fois ses souvenirs d'enfance au début et en fait, à la fin... du coup, des écrits que ma grand-mère n'avait pas terminés, donc où elle racontait, ça s'appelait La conquête de l'Ouest, son arrivée dans les Yvelines. Et du coup, en fait, on essaye tous, c'est très important dans notre famille, de faire perdurer leur mémoire. Donc, il nous manque énormément. Et du coup, c'est notre façon, en fait, en même temps, de sentir qu'on est encore proche d'eux, qu'ils sont encore là. Et je ne sais pas ce que je vais faire après ce documentaire, mais je vais essayer, moi aussi, de trouver d'autres façons. Voilà, comme ma grand-mère l'avait avec André Chanson, de faire vivre leurs valeurs, de transmettre leur message d'amour. Et voilà, je trouverai d'autres moyens de continuer.
Et vous avez choisi la musique d'Aguirre.
Oui.
Qui est nostalgique, mais en même temps joyeuse. C'est un bon résumé, en fait.
Tout à fait. Et c'est vrai que ça peut être étonnant, parce que c'est une... Donc, Aguirre, qui est du coup un film qui parle de guerre.
Ça a l'air
d'être. Mais voilà. Mais en fait, cette musique est magnifique. Et à chaque fois que je l'écoutais, j'étais plongée, en fait, dans des souvenirs d'enfance. Ce morceau-là en particulier, toute la bande originale est très belle, mais ce morceau-là en particulier, qui est un peu en deux temps... est juste sublime. Et du coup, j'ai choisi le deuxième temps du morceau qui est un peu plus lyrique, qui me faisait à chaque fois, voilà, je me remémorais plein de choses que je trouvais en effet assez nostalgiques. Je me suis dit, quelle meilleure façon d'illustrer en fait le générique de fin, qui est une compilation d'archives familiales, que cette musique qui à chaque fois me refait penser à mon enfance. Donc voilà, du coup, ça correspond très bien. Qui est donc Aguirre, comme je disais, voilà, donc ce film, et qui est un film, du coup, qu'on a découvert avec mon compagnon, étant très, très cinéphiles tous les deux. On a une chaîne cinéma, et donc, voilà, c'est comme ça qu'on a pu un petit peu aussi choisir certains morceaux qui sont peut-être pas forcément connus du grand public, on va dire.
Thank you.
merci Alice d'être venue de Paris à Nîmes pour nous parler donc de vos grands-parents, Louis Vel et Frédéric Aymard, également de votre père, de votre frère, de vos cousins. Vous nous avez dit que vous aviez une chaîne, donc quelques secondes pour présenter votre chaîne.
Très bien, donc c'est une chaîne qui s'appelle aujourd'hui French Tabloïd. Alors je dis aujourd'hui parce qu'avant elle s'appelait L'aile ou la cuisse. Donc c'est une chaîne qu'on a lancée il y a quelques années avec mon compagnon, voilà, qui met en avant le cinéma de patrimoine. Et on parle beaucoup aussi de polar. Donc c'est des courts documentaires ou des petites chroniques, voilà, à chaque fois, où ça peut être une analyse de film ou un portrait d'acteur ou d'actrice. Et voilà.
Eh bien, merci et pour cette émission, cette belle émission, j'ose le dire, le cinéma, une histoire de famille.
Merci à vous, Sylviane.